Bonjour chers auditeurs pour ce nouveau Libre Journal du jeudi. Aujourd'hui une émission consacrée au thème suivant, le Rassemblement National évolue-t-il vers le libéralisme ? Mon invité principal sera Jérôme Sainte-Marie, politologue, sondeur et essayiste. Il est en outre le responsable du Rassemblement National de Campus Emera, site de formation théorique. Et puis, nous attendons un coup de téléphone de Andrea Cotarac, qui est le porte-parole du RN et membre du cabinet de Marine Le Pen. Nous attendons ce coup de téléphone. Nous espérons qu'il va se manifester, arriver. Mais pour l'instant, nous passons en tout cas un chant à l'occasion de cette ascension composée par Samuel Barber. Et nous nous retrouvons tout de suite après. Voilà, on se retrouve pour ce libre journal du jeudi 14 mai 2026 de midi à 13h30. Le thème de cette émission portera sur le Rassemblement National évolue-t-il vers le libéralisme. Jérôme de Sainte-Marie, et non pas de Sainte-Marie, politologue, sondeur et essayiste, il est en outre responsable FN, RN décidément, vous voyez, quand ça s'y met. De Campus Emera et site de Emera, formation
Campus Emera, Emera, ouais.
De formation théorique. Alors on va parler du thème principal, mais moi j'ignorais la connaissance de ce site de formation. Est-ce que c'est un site qui est activé? Est-ce qu'il va être activé? Et est-ce qu'il va servir à l'élection présidentielle dans un an pour Bardella ou pour Marine Le Pen?
Bonjour, en tout cas je suis ravi d'être reçu à Radio Courtoisie. Oui, effectivement, ça fait un certain temps d'ailleurs que nous avons ce site Campus Emera. Alors c'est vrai qu'il est dédié aux adhérents, c'est-à-dire que quand vous adhérez au Rassemblement National, vous recevez un code qui vous permet, avec votre numéro de carte, de vous brancher sur Campus MRA. Alors, on a essayé ces derniers mois de diversifier notre offre, notamment de faire une actualité culturelle via les podcasts. On en a une cinquantaine de podcasts culturels. Puis, on a encore complété. On traite des principales théories politiques. Alors, le nombre n'est pas infini, mais on fait tout. Là. Je vous donne un exemple. Le dernier podcast sur les théories politiques que nous avons livré, c'était sur le gauchisme culturel. Vous voyez, ouais, donc on s'intéresse à tout, y compris à des choses.
Est-ce que vous avez lu d'ailleurs les ouvrages de Jean-Claude Michéa à ce propos? Parce que tout de suite, ça me fait penser à ça. Sur la gauche culturelle, le libéralisme libertaire, le libéralisme de marché et la gauche morale et culturelle.
Je ne serai très probablement pas à votre micro et surtout pas avec l'étiquette. Donc de formateur sur la dimension théorique, hein, par ailleurs la formation est aujourd'hui encadrée et très bien dirigée par Madame Edwige Diaz, et il y a maintenant des formations notamment sur les pratiques militantes, des formations pour les candidats, des formations pour les nouveaux élus, etc., qui sont très développées. Le volet de formation est très large. Moi, je m'occupe exclusivement des aspects théoriques. Campus MRA, donc je ne vais pas tout vous dire, mais il y a également les grands auteurs. Justement, on a fait Orwell il n'y a pas longtemps, et en parlant d'Orwell, forcément, on a parlé de la décence commune et on a parlé de Jean-Claude Michéa. C'est vrai que Jean-Claude Michéa était pour moi une révélation, il faut bien le dire. C'était maintenant, il y a une douzaine d'années, je crois. Alors, je vais tout vous raconter.
Oui, allez-y, ça vous intéresse.
Comme mon temps se répartit entre mon logement principal qui se trouve dans les Hautes-Alpes, où je suis d'ailleurs candidat aux législatives, enfin j'étais candidat aux législatives la dernière fois, et je suis délégué départemental maintenant du RN dans les Hautes-Alpes.
Pour être plus complet encore dans votre présentation.
Voilà, donc je vis une bonne partie de l'année dans un espace hyper rural des Hautes-Alpes, dans les Baronnies notamment, pour être précis. Et donc je prends souvent le train, tout simplement. Et un jour, j'ai acheté Marianne, et il y avait un article, un dossier coordonné par Madame Polony sur Jean-Claude Michéa. Vous voyez comme quoi c'est bien de prendre le train. Et je connaissais pas spécialement, hein, je l'avoue. Ça m'a beaucoup intéressé. Donc j'ai acheté un ouvrage. Je crois que c'était La gauche et la religion du progrès, le mythe d'Orphée. Et là, j'ai eu subitement l'impression de comprendre ce que je pensais déjà. Vous voyez ce que je veux dire ?
D'accord.
C'est-à-dire que tous les éléments que j'avais déjà en tête se sont en quelque sorte ordonnés grâce à ce qu'a fait Michéa et à ce qu'a écrit. Alors c'est toujours un peu le même bouquin, Michéa, on le sait tous.
Oui, souvent.
Mais c'est une façon...
Mais entre l'inconvénient de se répéter et celui de ne pas être entendu, il n'y a pas à balancer, disait Bonald. Hein.
Voilà, moi, mon préféré, c'est peut-être Orphée, la gauche, la religion du progrès.
C'est un de ses premiers, d'ailleurs. Hein.
Oui, c'est... voilà. Et là, ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré, notamment sur... ça m'a aidé à relativiser les notions de gauche et de droite, et je me suis rendu compte, en fréquentant disons, des personnalités du Rassemblement National, qu'on était quand même assez nombreux à se référer au moins implicitement à Michéa. Donc je n'ai pas arrangé ses affaires dans la sphère universitaire. Le Monde lui avait consacré d'ailleurs un dossier il y a quelques années particulièrement violent. Mais c'est quelqu'un qui compte, bien sûr.
C'est quelqu'un qui refuse d'aller dans les médias. Et il vient du Parti communiste, mais aujourd'hui il est honni par la gauche. Un de ses thèmes de prédilection, c'est de dire que le libéralisme est unitaire, que ce soit le libéralisme moral, politique, économique, culturel, etc. En ce que le libéralisme économique est transnational et mondialisé, et en ce que la gauche morale et culturelle souhaite aussi une vision cosmopolite et indifférenciée du monde à travers les droits de l'homme et le marché. Bon, c'est un petit peu l'idée de Michéa. Et vous avez vous-même écrit un livre sur le bloc élitaire et le bloc populaire, si j'ose dire le bloc national et le bloc mondialiste, on pourrait dire, faire court.
Enfin, on raconte tous à peu près la même chose, en réalité, sous des termes différents.
Et ça va un peu dans ce sens, quand même. Même si l'approche est différente dans la méthodologie, c'est quand même un petit peu ce que vous dites vous-même, ainsi que d'autres auteurs, mais d'un point de vue peut-être plus sondagier, plus statistique.
Oui, moi je cite régulièrement Michéa, je crois que dans cet ouvrage, là, Bloc contre Bloc, qui avait eu le prix d'ailleurs des députés, et bien, qui avait été un peu remarqué, j'en ai fait d'autres, mais celui-ci qui était peut-être le plus clair.
C'est un ouvrage que vous avez publié il y a 5-6 ans.
C'était en 2019, mais c'était juste après les Gilets jaunes, c'est très clair en fait, c'est très simple, c'était entre les Gilets jaunes et le confinement, vous voyez.
C'est arrivé au bon moment, si j'ose dire.
Voilà. Et donc, c'était les éditions du Cercle qui étaient venues me chercher là-dessus, et c'était au moment où je l'ai écrit quasiment de retour, comme j'ai pas mal participé aux actes parisiens des Gilets jaunes, je l'écrivais quasiment en temps réel, et je trouvais que ça illustrait bien ce qui me semblait être apparaître. Et donc oui, bien sûr que ça permet de relativiser beaucoup de choses dans le discours de la gauche. Alors, Michéa, comme il vient du Parti communiste, il attaque principalement la gauche.
Mais les Ramas, les Inrecuptibles,
Libération, d'ailleurs, Canal+, etc.
Ouais.
C'est un peu répétitif et je trouve ça un peu maintenant, parfois...
Bon, ils ont réglé leur compte avec lui, maintenant c'est lui qui règle son compte.
Après, ça a le défaut, si vous voulez, des écrits trop réactifs. D'une part, ça vieillit très vite parce que ses émissions, ses animateurs et ces choses qu'il dénonce, elles sont déjà quasiment oubliées. Mais de ce point de vue-là, il est très proche de son auteur, bien sûr, Farc, qui est Karl Marx, parce que au fond, quand vous lisez des trucs comme Karl Marx, il y a pas mal de gens qui ont totalement disparu de la sphère intellectuelle et qui ne sont connus que par les écrits dénonciateurs de Marx. C'est un truc classique.
Mais alors disons qu'il est plutôt marxien que marxiste, en ce qu'il dénonce l'accumulation du capital et du profit, l'exploitation de l'homme par l'homme que fait Marx, mais il n'est pas évidemment pour la société sans classe et la dictature du prolétariat. Il est plutôt proudhonien et localiste de ce point de vue-là, plutôt mutualiste.
Oui, alors je reviens sur cette histoire de bloc contre bloc, puisque c'est un livre qui a donc, à ma grande surprise, a eu le prix des députés, donc avec des gens de tous bords qui ont voté pour lui. Et cependant, c'est un livre dont les chapitres commencent chacun en exergue par une citation du 18 Brumaire de Louis Bonaparte, écrit par Karl Marx. Vous voyez, donc tout est possible.
Ah, voilà.
Et ce qui m'a beaucoup intéressé, si
ça
vous
va
voulez...
effrayer nos auditeurs, mais c'est pour ça que je tenais à la rectification.
Je vais les rassurer tout de suite. D'une part, c'est une lecture de Karl Marx qui emprunte beaucoup à Raymond Aron, qui est quand même les meilleurs cours sur ce marxisme très critique, bien entendu, puisque Aron était un anticommunisme viscéral.
Plutôt
mais
libéral.
Voilà, et très libéral lui-même, mais c'était un germaniste et surtout il connaissait très bien cette œuvre qui à son époque avait quand même une certaine importance. Ce qui m'a beaucoup frappé quand ce livre est sorti, c'est qu'objectivement j'ai pas eu à me plaindre, j'ai eu une presse magnifique, même Paris Match, etc. Il y a consacré un petit article, j'ai vraiment pas eu à déplorer un quelconque silence, tout à l'inverse, mais ce qui m'a beaucoup frappé, et quand même tout petit peu surpris, c'est que j'ai eu droit à un dossier complet dans le Figaro Magazine, j'ai eu droit à un dossier complet dans Valeurs Actuelles. Alors je ne sais pas si Radio Courtoisie à l'époque y avait consacré du temps, mais c'est possible. Et
ouais.
Ainsi de suite, si vous voulez, j'ai eu, je crois que même bien, Renouvin, vous voyez. Donc,
royaliste.
Voilà, ouais. Royaliste, etc. Tout le monde y était allé de son truc, moi j'étais absolument ravi. Et j'ai eu un silence. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'est de débattre aussi avec les gens que je critiquais, bien sûr. Hein. Et l'allusion, enfin l'utilisation un peu ironique, pas ironique d'ailleurs, mais enfin bon, un peu provocatrice là, de Karl Marx était joué à cela. Donc c'est Karl Marx, c'est le Karl Marx pour nos auditeurs, qui est le Karl Marx historien et analyste de la politique, celui qui décrit donc cette période très particulière qui va de 1848 à 1851, donc la deuxième République. Et comme le dit Raymond Aron d'ailleurs, parce que Raymond Aron lui consacre un chapitre entier dans les étapes de la sociologie et de la pensée sociologique, je crois que c'est le titre exact, c'est une époque, c'est une période très intéressante parce que vous avez plusieurs régimes et plusieurs solutions politiques qui s'affrontent. Et c'est une époque aussi où on voit que le jeu des catégories sociales joue très fortement. Alors les catégories sociales ont beaucoup évolué depuis 1848, hein, ça ne m'a pas échappé, mais ça me permettait de dire derrière, et là on va peut-être en venir un petit peu à notre sujet, derrière le jeu politique, il y a, et c'est pas marxiste de le dire, parce qu'à l'époque, tous les auteurs, Alexis de Tocqueville, par exemple, écrit la même chose, hein, si on veut bien le lire, eh bien, on voyait bien dans cette courte période presque expérimentale, de 1848 à 1851, je rappelle, révolution en 1848, en février 48, mouvement social et plus mouvement insurrectionnel en fait dans les quartiers ouvriers de l'Est parisien en juin 1848, répression extrêmement féroce, combat très, très dur, 5 généraux sont tués. On a complètement oublié cet épisode qui a été écrasé par la Commune, mais en fait, juin 48, c'est très bien décrit par... par Tocqueville dans ses mémoires. Vous avez là des choses, des événements terribles, vous avez ensuite des solutions parlementaires. Enfin, le régime n'arrive pas à s'équilibrer en quelque sorte. On revient au suffrage censitaire, etc. Et puis enfin, vous avez le coup d'État de Louis Bonaparte qui va donc devenir Napoléon III. Donc en trois ans, vous avez quand même toute une série d'expériences. Et en fait, on n'arrive pas à régler les conflits sociaux par la voie républicaine. Et il y a cette solution extrême qui est donc l'établissement du Second Empire. Et donc ça a été décrit par plein de gens, et moi ça m'intéressait de faire le parallèle. Alors les situations heureusement étaient moins dramatiques, mais alors en plus j'avais commencé à développer cette thèse des blocs populaires, blocs élitaires, et à ce moment-là surgit le mouvement des Gilets jaunes, et évidemment ça m'a permis de faire quelques parallèles audacieux, mais qui ont semblé bien correspondre.
La force insurrectionnelle, notamment. Voilà.
Je finirai juste par dire que je crois que tout le monde. Alors déjà, je me suis beaucoup inspiré d'autres choses qui se font un peu dans différents pays occidentaux, y compris David Goudart, etc. Vous voyez, alors je ne sais pas si c'était avant ou après, mais enfin, quand j'ai vu les Anywhere.
Ouais.
Voilà, tout cela. Enfin, on écrit tous à peu près la même chose. Guyé écrit un peu des choses assez proches. Alors, moi, j'y ai apporté ma propre culture historique et idéologique, mais en fait, c'est assez proche. Pour le bloc élitaire, je crois que tout le monde était à peu près d'accord sur son existence. Alors maintenant, on parle de manière parlementaire du bloc central.
Oui.
Mais en réalité, si on intègre à la fois la forme politique et le fond idéologique, et enfin les catégories sociales qui le soutiennent, je pense que la notion de bloc élitaire qui est inspirée de Gramsci était plus adéquate. Toute la question
surtout,
est de savoir...
C'est plus clair. Ça peut paraître plus partisan, mais c'est plus clair, surtout.
Je crois que c'est assez clair, oui. Et donc, ce qui est beaucoup moins clair, et ça sera peut-être l'objet de nos conversations, c'est bien sûr l'existence possible d'un bloc populaire en face.
Oui, oui. Parce que vous incluez qui dans le bloc populaire ? Le Rassemblement National, évidemment, mais est-ce que vous y incluez également d'autres forces nationales concurrentes de celles du RN ?
Alors, puisqu'on est sur Radio Courtoisie et qu'on a un peu de temps,
ouais,
on va essayer d'aller sur, comment dirais-je, le soubassement idéologique de ces choses-là. Alors, vous savez... Il y a des slogans comme ça, où il y a des termes, mais puis parfois il y a quelques personnes qui essayent de leur donner quand même un peu de construction et de théorique derrière.
C'est ce qui est intéressant.
J'ai eu le temps de le faire, donc je m'y suis consacré. Quand je parle de bloc, on en parlait peu d'ailleurs à l'époque, maintenant tout le monde parle de bloc, mais dans tous les sens, etc. Quand je parle de bloc élitaire ou de bloc populaire, j'ai beau être sondeur, mon raisonnement au départ part de l'observation des sondages, de ce que je constate, et après j'essaye de voir un peu ce qu'il y a derrière. Mais le bloc élitaire ne se résume pas au vote élitaire, sinon il ferait 0,2%, et alors qu'il a remporté largement les deux dernières élections présidentielles. Et quand je parle du bloc populaire, je ne parle pas seulement du vote populaire, sinon, bon sondeur, je parlerai du vote populaire, je n'irai pas m'encombrer. Alors, ça fait un peu prétentieux, en plus, comme tout le monde, je n'ai pas lu Gramsci dans le texte, puisque c'est à peu près illisible, mais enfin, j'ai lu, au cours des années, j'ai lu plusieurs auteurs, plusieurs exégètes de Gramsci, et je me suis inspiré de sa notion de bloc historique. Parce que Gramsci, c'est quoi ? C'est 95% de marxisme, sauf que, et c'est pas du tout réductible, comme on le dit parfois dans notre courant national, je sais pas, des gens comme Zemmour ou Marion Maréchal disent, oui, comme disait Gramsci, le pouvoir se conquiert par les idées.
Ouais.
C'est pas entièrement faux, puisqu'à la fin, il y a des gens qui votent, mais enfin bon, si Gramsci n'avait dit que ça, j'imagine qu'on l'aurait oublié depuis longtemps, et avec raison. Non, ce que fait Gramsci, c'est, il dit, la mécanique du reflet des marxistes, c'est-à-dire de dire qu'au fond la politique n'est que le conflit politique n'est que le reflet des conflits sociaux, c'est un peu court et ça marche pas vraiment. Et d'ailleurs, quand Karl Marx essaye de faire ça dans son 18 Brumaire, il constate que ça marche pas toujours très bien. Donc ça explique beaucoup de choses, mais il y a quand même une large part qui n'est pas expliquée. Et le bloc historique de Gramsci, c'est l'idée que peut se former sur une cause, par exemple, lui avait l'exemple de la réunification italienne par Cavour et autour, voilà, donc, de Garibaldi, tout cela. Il montre comment, autour d'un projet politique, donc là, quand j'écris mon bouquin, le projet politique que j'ai en tête, c'est le projet macronien,
ouais,
que je combats, mais que j'essaye d'étudier,
ouais, ouais.
Qui, au lieu d'être un combat, d'être un projet national, comme était le projet du bloc historique de Gramsci, lui, c'est un projet post-national. Donc, c'est ça qui était assez ironique. Il y a un projet politique derrière lequel il y a des forces politiques, mais aussi des forces sociales. Puis, vous avez une force sociale qui, en quelque sorte, est le noyau dur de ce projet et irradie, et qui trouve des alliés. Parce que en politique en général, et dans la politique démocratique en particulier, il vous faut des alliés. Mais encore une fois, les idées ne flottent pas dans l'air. Moi, je pense qu'elles sont enracinées dans des cultures, mais aussi dans des intérêts et dans des groupes sociaux.
Donc, mais est-ce que vous incluez aussi dans ce bloc élitaire les médias, la finance, la justice, bref, ceux qui font partie de l'hyperclasse mondialisée en France, notamment?
Oui, vous savez, c'est ce qu'on appelle le système dans certains milieux, mais ce qu'on appelle le système, alors ça peut faire complotiste, en réalité, ça s'appelle les classes dominantes. Ouais, vous voyez ce que je veux dire, c'est l'idéologie dominante qui est l'instrument de la classe dominante, pour parler de manière un peu catégorie. Alors quand on veut pas, ça fait un peu marxiste, alors qu'en fait, classe sociale, c'est pas du tout, enfin Marx n'invente rien en fait, hein, tous les libéraux, Adolphe Thiers, des gens comme ça, Guizot, enfin tous ces gens-là, parlent de classe sociale, hein, dans les années Karl Marx ne fait que traduire. Lui, ce qu'il a introduit, c'est la lutte des classes. Ça, c'est un peu différent.
Encore autre chose.
Mais, et sa résolution dans un modèle apocalyptique bien connu.
Et messianique.
Mais voilà. C'est une eschatologie, en quelque sorte, à l'œuvre. Ça lui appartient. Et ça peut être combattu. En tout cas, c'est pas du tout la philosophie politique du Rassemblement National. Ça vous aura pas échappé.
Ouais.
Qui est au contraire une logique, on va en parler pour l'économie et le social, une logique d'unification, une logique de rassemblement, précisément. Mais ça c'est spécifique. Alors le fait par contre qu'il y ait effectivement des catégories, que la société c'est pas une somme d'individus indifférents les uns aux autres, qu'il y a des structures et qu'il y a des structures dirigeantes dans toute société d'ailleurs, mais y compris dans la nôtre, ça c'est une banalité, alors qui est souvent niée dans le discours politique parce que faut montrer qu'on s'adresse à tous, etc. Mais moi j'ai travaillé comme sondeur depuis plus de 30 ans maintenant avec des hommes politiques de tous bords, bien entendu que toute personnalité politique qui se présente aux élections, y compris au niveau local, analyse... tient compte de la sociologie de son territoire, c'est très bien que les idées et que les courants politiques ne vivent pas de la même manière dans le 16e arrondissement ou bien à Montreuil, vous voyez, pour prendre un exemple de la région parisienne.
Ouais.
C'est une évidence. Donc dans l'institution du bloc historique, et j'en finirai par là-dessus, et donc le bloc élitaire est un bloc historique, à mon avis, ce qui explique sa pérennité. Durant deux quinquennats et peut-être au-delà, et je crains d'ailleurs au-delà, j'espère qu'il sera battu.
Dans l'hypothèse où Mélenchon serait présent au deuxième tour. Parce
2027,
que si c'était Macron, un candidat macronien, Édouard Philippe par exemple, ça sera peut-être différent.
Moi je pense que le bloc élitaire sera représenté dans cette élection, enfin il l'est déjà, et peut-être même qu'il peut accéder au second tour, et je pense qu'on va réussir à le battre, mais ça sera la différence avec les élections précédentes, mais sinon voilà, et donc c'est un bloc qui a une sociologie, qui a une idéologie, et qui a une forme politique. Sa forme politique transitoire, ça a été Emmanuel Macron, mais moi il ne faut pas se rassurer trop facilement, hein. Macron c'est pas un pur produit de la communication, c'est le produit d'un projet bien réel, assumé, et c'est un projet qui, malheureusement, dans la mesure où c'est un projet qui travaille à la perte de toutes nos souverainetés, malheureusement, a marqué des points au cours des dernières années.
Alors, on pose toujours la question, sans forcément la poser comme ça, mais je vais y remédier. Je crois que vous venez vous-même du mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement.
Oui, enfin que j'avais quitté en 1995.
Ah donc... oui, vous l'avez quitté très tôt, avant 2002.
J'ai participé à
quand
sa...
il s'est présenté
à sa fondation, puisque j'étais à Belfort donc en 92.
Ouais.
Et je l'avais rejoint sous le coup de deux effets en fait, hein, la protestation contre la participation française à la première guerre du Golfe d'une part, et d'autre part bien sûr l'opposition à la ratification du traité de Maastricht.
Et qu'est-ce qui vous a fait justement basculer? C'est justement cette dichotomie entre les classes populaires et les classes moyennes déclassées d'un côté, et les classes bourgeoises et l'oligarchie de l'autre, de l'opposition de plus en plus frontale entre ces classes-là, ou est-ce que c'est encore un aboutissement peut-être d'un patriotisme enraciné au sein du Rassemblement National qui n'était peut-être pas aussi présent dans le patriotisme volontariste, contractuel, révolutionnaire, disons-le, de Jean-Pierre Chevènement?
Moi, j'appartiens à un courant familial. Enfin, les personnes dans ma famille dont je me suis inspiré sont ont eu un engagement, donc c'était au XXe siècle hein, désormais, ont eu un engagement dans les combats de leur époque, et, y compris la résistance d'ailleurs, mais plutôt du côté, alors il y a tout hein, dans ma famille, mais ceux dont... qui m'ont plutôt formé en quelque sorte, c'est plutôt des gens qui étaient engagés à l'extrême gauche, il faut dire les choses comme elles sont, dans les années 70 notamment.
C'est un petit peu ce que Donat Meyer et Pascal Perrineau ont appelé le gaucho-lepénisme en 95, qui était un petit peu à marche forcée comme vocabulaire, mais qui correspondait à une sociologie qui déjà était un tout petit peu présente, bien que Jean-Marie Le Pen était lui-même libéral à l'époque, contrairement à Marine Le Pen.
Là c'était plutôt dans les milieux ouvriers, et moi c'est vrai que j'appartiens pas spécialement aux catégories populaires. Je suis plutôt issu de la petite bourgeoisie, si vous voulez, enseignante et tout cet univers-là, disons. Donc là-dessus, je ne vais pas m'inventer des racines populaires que je n'ai pas. Mais donc voilà, donc, si vous voulez, moi j'étais au départ, j'ai eu un engagement plutôt dans la tradition familiale qui s'était assagie déjà quand j'étais au mouvement des citoyens. Pour moi, c'était au contraire une forme de normalisation politique. Alors j'ai toujours été très éloigné du Parti Socialiste. Il faut dire que j'ai eu 18 ans en 1984, lors du grand tournant libéral et européiste du Parti Socialiste, sa trahison des catégories populaires qui était marquée par des affrontements de rue en Champagne-Ardenne, etc., lors de la restructuration de l'industrie sidérurgique notamment. Et j'appartenais à un milieu, j'ai tout de suite été dégoûté par l'indifférence, voire même la satisfaction du milieu de gauche, notamment des profs, etc., si vous voulez, qui vivaient dans les années 80, sous le thème de la modernisation, etc., qui vivaient cette dévastation, très bien décrite par Guilly ou par d'autres, des zones populaires. Alors moi j'étais à Nice, hein, donc ça ne me concernait pas directement, mais enfin, j'assistais comme ça par les médias à ce licenciement massif, ces plans sociaux terribles, la protestation de ces catégories qui avaient été trahies par la gauche, puisqu'on leur avait raconté des choses bien différentes, entre notamment en 1978, lors des grands conflits ouvriers à Longwy, et voir avec quelle satisfaction cette gauche, qui allait devenir la gauche Canal+, vous voyez ce que je veux dire, était encore une fois non seulement indifférente, mais même se réjouissait. C'est la célèbre émission « Vive la crise » animée par Yves Montand et préparé notamment par Libération
au début des années 80
et par l'Élysée. Donc ce cynisme m'avait paru terrible. Donc si vous voulez, moi la gauche, ça m'a jamais concerné.
Les références
idéologiques, vous avez compris, c'est un peu particulière. Mais
c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Chevènement voulait réconcilier les deux bords politiques des deux rives, droite et gauche, d'une
voilà,
certaine
et donc,
façon. Qu'il n'y est pas arrivé.
Je connais assez bien le trotskisme, etc. Mais le côté l'indifférence totale, voire même l'hostilité du courant trotskiste à la question nationale, moi m'a toujours mis mal à l'aise, et assez rapidement j'en ai tiré les conclusions. Après, si vous voulez, moi je commence à travailler dans les sondages dans le cadre d'abord du service militaire chez le premier ministre de l'époque, mais c'était une coïncidence, en 90, et si vous voulez, après je deviens sondeur, vous travaillez pour tous les courants politiques, sauf à l'époque pour le Front National, et vous êtes tenu à une forme, vous ne pouvez pas vous engager, donc je me suis engagé pendant 3 ans au Mouvement des Citoyens, mais sans pouvoir être élu, il n'y a pas beaucoup d'élus au Mouvement des Citoyens, donc la tentation était faible, mais vous aviez, voilà. Et donc, moi de fait, pendant 30 ans, si vous voulez, j'ai plus aucune activité politique réelle.
Oui.
Je m'intéressais aux mouvements sociaux, j'allais assister aux manifestations, je faisais des choses comme ça, mais puis je continuais à lire et à me former personnellement. Mais quand vous êtes sondeur, non seulement vous mimez l'objectivité, mais de fait vous la pratiquez aussi. Donc vous êtes tenu, enfin ça serait très hypocrite de travailler pour quelqu'un un jour et puis derrière, si vous voulez, c'est Pénélope, si vous voulez, là, si vous défaites le soir ce que vous avez fait pendant la journée, ça me paraissait un exercice un peu vain et un peu hypocrite, ce qui fait que moi, pendant 30 ans, j'ai pas eu de réelle activité politique, et puis, l'âge de venant, voilà, c'est le démon de minuit, j'ai été repris par... mes pulsions militantes. me voici au Rassemblement National.
mais qui, justement, sont en quelque sorte, quand même, un transfert de 30 ans avant la politique que vous avez pratiquée, disons plutôt à gauche, même si vous ne considériez pas comme un homme de gauche, mais gauche à défaut d'être de gauche.
Non, moi j'ai un grand intérêt pour les catégories populaires, je suis assez critique du système en place, Mais justement, moi, la gauche que j'ai connue, la gauche réelle, c'est une gauche qui sait, c'est la gauche mitterrandienne, vous voyez, donc et encore, Mitterrand aujourd'hui passerait pour un dangereux révolutionnaire par rapport à ce qu'est devenu la gauche, et donc moi, c'est, ça m'intéressait pas, vous voyez ce que je veux dire, enfin, la gauche que j'ai fréquentée, alors, quand j'étais à...
C'est Laurent Fabius en 84, quoi.
Quand j'étais à Sciences Po, Sciences Po a changé, parce qu'à l'époque, quand j'étais à Sciences Po, à la fin des années 80, donc les gens intelligents étaient soit rocardiens, soit baristes à l'époque, pas baladuriens, soit baristes. Alors moi, j'étais pas très intelligent, donc j'étais ni bariste ni rocardien, et je m'intéressais plutôt à des forces, et à Sciences Po, j'ai fréquenté justement des forces très minoritaires, des deux côtés, disons, aux deux extrêmes de l'échiquier politique, et ça m'a toujours paru des endroits où on réfléchissait davantage, parce qu'on doit être obligé de penser contre, vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
Les autres, bon, bah, ils étaient rocardiens ou baristes en fonction des engagements ou des intérêts de leurs parents, si vous voulez, et puis ça, ils n'avaient même pas besoin de réfléchir, le monde, en quelque sorte, allait dans leur sens. Quand vous raisonnez à contre-courant, ce que fait Radio Courtoisie, je crois, vous êtes obligé d'argumenter bien davantage, puisque vous allez contre le sens commun, souvent, ou en tout cas le sens commun des catégories qu'on fréquente.
Oui, bien sûr.
Parfois,
bien sûr.
Vous allez dans le sens du sens commun populaire, mais celui, on l'entend peu. Et donc, vous êtes dans un milieu. Voilà. Donc, moi, dans la gauche, j'ai jamais été de gauche, curieusement. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai jamais été de droite non plus, d'ailleurs, mais j'ai jamais été de gauche. Et ça m'a jamais intéressé, ces catégories-là. Et quand j'ai vu que dans Michéa, justement, rappelle que d'ailleurs que Marx n'utilise jamais le mot de gauche, vous voyez ce que je veux dire.
Oui, Michéa est favorable au socialisme français contre la gauche qui n'apparaît finalement que très récemment. Au début du 19e siècle.
Et qui n'est pas toujours très structurante des débats politiques, même si vous prenez par exemple la 4e République. Vous voyez, je ne vais pas vous prendre un exemple très ancien. Le régime parlementaire de la 4e République est un régime, ça me fait beaucoup penser à notre époque, c'est-à-dire que c'est pas du tout... Alors, il y a des gens qui se sentent de gauche, des gens qui se sentent de droite durant la 4e République, notamment plus de gens qui se sentent de gauche, en fait. Mais ce mot est plus utilisé à gauche qu'à droite. Mais, cette catégorisation de la politique, mais en réalité, la vie parlementaire n'est pas du tout organisée en fonction de cela. Et vous avez, au contraire, c'est la grande époque de la troisième force, en quelque sorte, hein, qui exclut, je le rappelle, d'un côté... les forces patriotiques qui étaient... Alors, il y a eu des épisodes qui font que c'est compliqué, je pense, pour beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie, mais le gaullisme était quand même était clairement souverainiste. Hein, voilà, donc...
La troisième force, c'était une terminologie, une expression qu'on avait notamment sous le péronisme en Argentine, hein, et dans d'autres, d'ailleurs, dans d'autres contrées.
Oui, mais là, je pensais simplement, si vous voulez, à l'alliance du MRP.
Ah, c'est plus politicien.
Du MRP, du Parti Socialiste, et il y avait qui encore, différentes forces de droite, la SFIO, donc, pour le Parti Socialiste, qui excluait, d'une part, toute alliance ou tout accord avec, d'un côté, les gaullistes, et de l'autre, tout accord avec les communistes. Ce qui faisait que c'était un pouvoir instable et structurellement minoritaire qui a provoqué toutes sortes de paralysies parlementaires. Vous remarquerez que ce qui se passe en France depuis 2022, notamment au Parlement, rappelle beaucoup, beaucoup cette période-là.
Alors, on a cité Michéa, vous avez cité Christophe Guillouis, les convergences qui existaient entre leurs deux conceptions et leurs deux réalités sociologiques qu'ils peuvent interpréter dans les sondages et sur les urnes surtout. La France périphérique, la France du périurbain étant la France plutôt populaire, France ouvrière, chômeuse, des catégories plutôt précaires et d'une classe moyenne déclassée aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais être franc et je vais y aller carrément, est-ce qu'aujourd'hui le RN qui a préempté, d'ailleurs naturellement, puisque ses électeurs sont allés à 80% vers ces catégories-là aux dernières élections, est-ce que le RN, aujourd'hui, est en train de traverser une mutation, une mue sociale pour aller vers le libéralisme? J'explique pourquoi je pose la question. Marine Le Pen avait, me semble-t-il, un peu neutraliser cette question sans du tout l'abandonner, mais neutraliser un petit peu la question sociale ces dernières années. Et puis, elle a rencontré les grands patrons, elle a déjeuné avec Bernard Arnault. Bardella, lui, de son côté, a rencontré les gens du CAC 40. Il s'est prononcé en faveur de la privatisation du service public à la télévision. Alors, on peut toujours dire... le fait de dîner avec quelqu'un, de déjeuner avec quelqu'un, ne vous oblige pas à être d'accord avec lui, hein, bien entendu. Mais il me semble qu'il y a comme une ambiance. Alors, est-ce que cette ambiance est fausse ? Est-ce qu'elle est autosuggestive ? Ou au contraire, est-ce qu'elle a une part de vérité ?
Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a des signaux qui sont envoyés. En réalité, ils l'étaient déjà, mais ces signaux n'étaient pas reçus. Vous voyez, on a toujours souhaité, je dis on, parce que maintenant je suis au RN, et ça fait quelques années tout de même que je suis engagé clairement du côté du Rassemblement National. Donc je vais continuer à dire on, même si je n'appartiens pas, comment dirais-je, réellement aux élites dirigeantes du parti, si vous voulez. Voilà. Mais ce que j'observe... Et ce qui, parfois, ce que j'ai contribué peut-être à systématiser, eh bien, c'est qu'on s'est toujours adressé, en fait, aux forces économiques, et y compris au patronat. Il faut bien comprendre que la ligne ni gauche ni droite ne signifie pas que le Rassemblement National soit un parti de gauche.
Bien sûr.
Une parenthèse, je ne sais plus qui disait... Qu'est-ce qu'il disait ça ? Il y avait une phrase célèbre quand j'étais jeune, qu'on disait que quand quelqu'un vous dit, je crois que c'était, je ne sais plus quel personnage avait dit ça, un type de gauche d'ailleurs, Anatole France ou quelqu'un.
Non, c'est Alain qui disait, quand une personne me pose la question de savoir s'il est de droite ou de gauche, je ne peux pas m'empêcher de penser que la personne qui a posé la question est de droite. Ouais.
Voilà. Et alors maintenant, j'ai un peu l'impression que quand vous dites que vous n'y êtes ni de gauche ni de droite, les gens ont tendance à penser que vous êtes de gauche.
C'est vrai.
Ce retournement est assez.
C'est très, très vrai.
Est assez inverse, mais c'est pas vrai.
Ouais.
On y reviendra peut-être sur la situation gauche-droite. Moi, c'est un truc qui m'a toujours frappé, y compris par expérience familiale. C'est que dès que vous avez un sujet important où l'avenir du pays, la cause nationale est en jeu, que ce soit notamment lors des guerres, tout simplement, hein, ou même lors de la décolonisation, etc., vous avez, dès que la question nationale apparaît, la notion de gauche et de droite ne fonctionne plus, en fait. Dès que les choses deviennent sérieuses, en fait, moi, je trouve que ça ne fonctionne plus vraiment.
Pourtant, la nation, historiquement, est à gauche. Le jacobinisme est à gauche.
Oui, mais ça date.
Le sans-culottisme est à gauche. Alors, il y a eu un déplacement après que les forces sociales, populaires, etc., se sont davantage adressées à la gauche, et que la droite contre-révolutionnaire s'est elle-même ralliée au populisme ou à la démocratie, tout simplement, à la souveraineté nationale. Mais il y a quand même cette pesanteur sociale historique qui existe, me semble-t-il.
Oui, pour Charles Péguy, il se trouve que, je vous l'ai dit, on fait des podcasts, des choses sur les grands auteurs, et donc j'ai fait récemment Charles Péguy.
Vous voyez bien
la complexité,
bien sûr.
Même s'il attaque beaucoup Jaurès et son pacifisme, mais voilà. Et la guerre 14-18 a été menée par des forces politiques très largement de gauche, en fait. Enfin, en tout cas, de gauche et de droite mélangées. Ce qui a d'ailleurs été dénoncé par le Parti communiste, ceux qui allaient devenir les communistes.
Donc, aussi bien Clémenceau que Maurras, on pourrait
voilà,
dire.
Voilà, donc vous avez la guerre d'Algérie, etc. Vous avez, on ne peut pas dire que les socialistes aient été particulièrement, c'est eux qui appellent les rappelés, guimolés, tout cela. Donc vous n'avez pas, ça ne marche pas. Alors, pour revenir à notre affaire de libéralisme, les signaux qui ont été envoyés au patronat, ils le sont depuis, à ma connaissance, en tout cas, moi, je les ai toujours, depuis que je suis au Rassemblement National, j'ai toujours vu ça. Tout simplement parce que nous ne sommes pas précisément un parti de gauche ou un parti qui a la religion de la dépense publique. Qu'est-ce que la gauche aujourd'hui ? Et d'ailleurs, depuis 84, c'est très clair, c'est une gauche qui parle pratiquement plus de production. Cet idéal du producteur, cette figure de l'ouvrier, rappelez-vous que Jospin, Pierre Mauroy, ait fait remarquer à Jospin en 2002 que pendant toute sa campagne, c'est peut-être pour ça qu'il a été battu d'ailleurs, et qu'il a été devancé par Jean-Marie Le Pen pour le second tour, Jospin ne prononce pas le mot « ouvrier » pendant sa campagne de 2002. Il faut voir d'où on vient. Et plus généralement, la notion de production qui était vraiment centrale. La gauche était très largement le parti du travail, qu'on le veuille ou non. Et donc ça a disparu progressivement. Et dans les années 80, si vous prenez un peu de hauteur, vous vous rendez compte qu'on achète, à partir des restructurations de 83-84, c'est quoi la grande œuvre du gouvernement Mauroy, puis Fabius, etc. D'ailleurs, et c'est pour ça que le patronat, au début, est plutôt content, en réalité, parce qu'on achète les restructurations par la dépense publique. C'est-à-dire qu'on laisse les entreprises licenciées, optimisées, etc., tant mieux, mais on le fait en prenant en charge le coût social de tout cela. Et donc, en quelque sorte, la dépense publique avec les socialistes, puis après avec les gouvernements successifs, Chirac et compagnie, eh bien, en quelque sorte, nationalise le coût social, des restructurations industrielles, voilà. Et on est mal payé de retour parce qu'au fond, on ne trouve pas. Ça aurait pu marcher, c'est à condition que la production soit développée. C'est pas ce qui se produit malheureusement sur le long terme. Et nous, on a toujours été attachés inversement au Rassemblement National, qui encore une fois n'est pas du tout dans une idéologie de lutte des classes et qui surtout refuse le raisonnement.
Marine Le Pen a dénoncé le ressentiment social.
Voilà,
il y a
le jeu à somme nulle. C'est pas parce que les gens gagnent plus que les autres vont gagner moins. C'est pas comme ça que ça se produit. Alors, on n'a pas la naïveté de croire à la théorie du ruissellement. Vous savez, c'est-à-dire que plus les riches s'enrichissent et plus les autres s'en porteront bien. C'est pas non plus comme ça que ça se passe. Mais, le bonheur.
Mais vous n'y êtes pas qu'il y a quand même une réalité sociale, c'est l'antagonisme des classes.
Le bonheur des pauvres n'est pas lié au malheur des riches. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas comme ça que ça se produit. Et surtout, quand vous rencontrez le patronat, c'est pas la même, même si c'est des gens qui gagnent. En l'occurrence, qui peuvent gagner beaucoup d'argent. La question que vous vous posez n'est pas de savoir s'ils sont riches ou pas, mais est-ce qu'ils contribuent à la production dans le pays ? Et quelqu'un comme Arnaud, vous voyez, c'est l'industrie du luxe, ne serait-ce parce que la marque France est une marque très puissante, et notamment l'industrie du luxe, est obligée de maintenir, je ne sais pas moi, des marques de chaussures comme Weston, c'est produit à, comme son nom ne laisserait pas penser, est produit à Limoges, je crois.
Oui, exact.
Voilà, donc vous voyez, cette industrie du luxe est aussi une industrie où des savoir-faire français peuvent se développer. Et moi, si vous voulez, je ne suis pas. Personne, et surtout pas la gauche d'ailleurs, n'est d'un projet révolutionnaire, contrairement à ce qu'on dit. La gauche, maintenant, c'est devenu le parti de tous ceux qui profitent, directement ou indirectement, de la dépense publique. Et moi, je crois qu'on est tous assez convaincus que cette omniprésence de l'argent public partout, y compris à travers la prime d'activité, vous voyez, pour contribution au paiement des bas salaires, la CICE, etc. Il y a un argent public qui est déployé partout. Personne n'est vraiment libéral en France, si vous faites attention.
Le libéralisme ne marche pas en France.
Voilà,
hein.
Et personne ne peut être tellement plus
le
social.
Le vrai libéralisme.
Et personne ne peut être tellement plus social que en France, que ce qui existe déjà, vous avez... je vous donne un exemple. Il se trouve que je suis délégué départemental dans les Hautes-Alpes. Il y a eu une campagne municipale menée par le Rassemblement National récemment à Gap. D'après ce que j'ai vu, à Gap, donc ville moyenne, 40 000 habitants, préfecture, vous avez 48% de la population active qui relève directement du secteur public. Et plein de gens. Pourquoi pas ? Il y a un grand hôpital qui est le principal employeur, c'est ce qui est très bien montré par Jean Fourquet dans ses bouquins. Vous avez l'hôpital, vous avez, et je m'en réjouis d'ailleurs, une caserne, le 4e régiment de chasseurs, pour être précis, qui est très actif dans les OPEX. Vous avez un tribunal, etc., etc. Vous arrivez à près de la moitié de la population active d'une ville moyenne tout à fait représentative de la France, qui appartient au secteur public. Et nous ne comptons pas là-dedans tous ceux qui, ayant une activité privée, reçoivent des subventions, des trucs. Il y a un argent public énorme qui est dépensé. Alors nous, on veut pas le remettre. Enfin, on veut le réorienter. C'est très très clair. Plus, vous avez aussi dans ces départements comme le mien, vous avez aussi une classe politique qui est très nombreuse sous l'effet, comme la population, par rapport à la population, sous l'effet de la décentralisation. Moi, tout ça, si vous voulez, ça me, comme vous avez compris, j'étais pas un ultra-libéral, mais moi, je n'ai aucune satisfaction particulière, si vous voulez, à avoir une dépense publique qui, à la fin, est payée, en plus, par la dette.
Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a quand même un autre problème ? Quand vous dites « je ne suis pas un adepte » ou « je ne crois pas à la théorie du ruissellement pour montrer que vous n'êtes pas libéral », on pourrait parler d'un contre-ruissellement dans les licenciements qui sont pratiqués par les multinationales vis-à-vis des travailleurs. On pourrait parler de la bulle spéculative qui fait que de plus en plus de riches s'enrichissent à mesure que de plus en plus de pauvres s'appauvrissent. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même des inégalités sociales qui sont... Il ne s'agit pas de tomber dans l'égalitarisme, mais est-ce qu'il n'y a pas des inégalités sociales qui sont de plus en plus odieuses pour les Français ?
Oui, les inégalités sociales sont très importantes, et notamment... Alors, les inégalités de revenus, c'est mesuré par l'indice de Gini, pour être très précis, ça ne s'accroît pas en France, contrairement à ce qu'on raconte la gauche, etc. Ça, c'est pas vrai. Ce qui se différencie, et notamment les revenus du travail, qui sont assez écrasés, en fait, hein, et assez redressés. Bon, pourquoi pas ? Le problème, c'est que les inégalités de patrimoine, notamment en raison de la spéculation immobilière, sont très importantes. Alors, comme disait Hegel, je crois, le réel est rationnel et le rationnel est réel. On va revenir sur le réel. Bah, il se trouve que j'ai suivi très attentivement, alors indirectement par des récits, parce que à l'époque j'étais beaucoup plus à Paris que je ne le suis aujourd'hui, donc j'étais pour l'essentiel sur les actes, j'ai dû faire une vingtaine d'actes, vous voyez, de ce qu'on appelait les actes, donc les samedis, des Gilets jaunes, là sur les Champs-Élysées, etc. Et puis je me suis quand même beaucoup documenté, puis j'ai essayé de suivre aussi ce qui se passait dans les Hautes-Alpes, etc. Bon. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que voilà, vous avez un mouvement social très intéressant, un mouvement étrange, mais un mouvement avec une participation massive des actifs, j'allais dire des salariés, mais c'est pas vrai, des actifs, c'est-à-dire salariés et indépendants du secteur privé. Je trouve que je connais bien les manifestations parisiennes, il y avait quasiment personne de gauche, et à Paris, vous avez énormément d'étudiants, de profs, etc. Ils n'étaient pas là, c'était très clair. Alors j'ai vu quelques militants en CGT, mais qui étaient plutôt dans des secteurs du privé, justement, qui avaient désobéi à leur centrale pour venir sur les Champs-Élysées, et tout le public du 11e arrondissement, du canal Saint-Martin, tout le public de Nuit Debout était absolument absent de ce mouvement qu'il condamnait d'une certaine manière. Alors maintenant, il le récupère d'un point de vue mémoriel, mais en réalité, sur le moment, il n'était pas là. Vous aviez un contenu social très fort dans ce mouvement, et notamment la question du pouvoir d'achat.
Oui.
Mais pas avec les solutions traditionnelles de la gauche. Les gens ne réclamaient pas davantage de droits sociaux, etc. Ils ne comprenaient pas, ils ont raison, pourquoi ils payaient beaucoup de taxes, parce qu'encore une fois, le mouvement part d'une taxe sur le carburant. Beaucoup de taxes.
Il y a aussi la TVA avec les produits de première nécessité.
Absolument. Et pourquoi ils comprenaient bien que les dépenses contraintes étaient importantes, qu'ils avaient, que les choses étaient chères, qu'ils s'en sortaient pas. Donc ça, ils avaient cette colère profonde. Mais cette colère, elle ne se traduisait pas par réclamer des mesures de gauche. Alors, ils constataient aussi, ça c'est important, parce qu'ils viennent de la France périphérique, ils constataient aussi ce que tout le monde constate, c'est que, alors même que la dépense publique est très forte, vous avez des fermetures de services publics un peu partout. Par exemple, vous avez des trajets en train qui sont chers, des choses comme ça. Ça, ils le constataient. Mais ils n'en avaient pas une structure. Je prends un exemple très, très clair, un épisode très clair. Vous voyez, vous savez que bon, ils s'en prenaient aux symboles de l'État, y compris aux sous-préfectures. Alors moi, je n'étais pas là, hein, j'étais à Paris, mais enfin bon, ils s'en prenaient aux symboles de l'État. Ils avaient bien sûr une très forte détestation de Macron et de son gouvernement de l'époque, d'Édouard Philippe, pour ne pas le nommer. Mais inversement, un jour, on est passé par l'avenue Bosquet. Le cortège des Gilets jaunes, moi je suis ça qui intérêt, et puis on passe devant ce grand immeuble qui est l'immeuble du MEDEF.
Ouais.
Et ça se voyait que c'était l'immeuble du MEDEF, vous voyez, bon, ils n'avaient pas mis des banderoles pour marquer nous sommes le MEDEF, mais enfin quand même ça se voyait. Et quand vous, voilà, le cortège s'écoulait lentement, les gens avaient parfaitement le temps de réaliser, et si vous voulez, pour un oui, pour un non, les gens se mettaient en colère, criaient des slogans hostiles, parfois un peu, comment dirais-je, rablésiens dans le libellé, et pour ne pas dire plus.
C'est un euphémisme.
Voilà, et là, silence total. En fait, c'était pas leur problème. Et plus largement, ça me fait plaisir d'être chez vous pour pouvoir en parler. Plus largement, il se trouve que je suis en contact moi-même avec des représentants du patronat, etc. Moi, encore une fois, je suis pour l'activité économique. Et le travail, la production, moi, ça m'intéresse. C'est pas la même chose que l'argent, vous comprenez.
Oui. Vous n'êtes pas un partisan de la décroissance. Il faut dire les choses très franchement.
Ni de la décroissance, ni de la collectivisation. Donc, vous voyez, le problème n'est pas là.
Oui.
Mais vous n'avez jamais eu aussi peu, et c'est le patronat qui m'en parlait précisément, le patronat voilà, national, il le constate. Vous n'avez jamais eu aussi peu de jours de travail perdus pour fait de grève qu'actuellement. Vous n'avez plus de grève, pour ainsi dire, dans le secteur privé. Et de mon point de vue, c'est très mauvais signe. Je vais vous le dire, parce que s'il n'y a plus de grève dans le secteur privé, alors vous avez des grèves dans le secteur public, quand ils peuvent le faire, mais encore une fois, il y a très très peu de jours de grève. Hein. C'est pas du tout nos problèmes économiques actuellement, ils ne sont pas liés au fait qu'on fasse grève. Hein. Ça, c'est des trucs qu'on raconte parfois dans une certaine presse conservatrice, mais c'est pas vrai, parce qu'il n'y a jamais eu aussi peu de grèves. Alors que dans les années des Trente Glorieuses, vous aviez énormément de mouvements revendicatifs. Et quand il y a des grèves dans le secteur privé, c'est surtout des grèves avec occupation des locaux quand une usine ferme, c'est en fait pour négocier un plan social dans les meilleures conditions. Mais des grèves revendicatives. Et quand moi j'étais à l'époque, j'étais enfant, etc. Mais je me rappelle qu'avoir assisté à des usines occupées, etc. Dans les années 70, vous aviez des grèves revendicatives où les gens. C'est mauvais signe qu'il n'y ait plus de grève parce que vous avez une grève quand vous avez une lutte pour un meilleur partage de la valeur ajoutée, en tout cas au profit des salariés. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas du tout parce que d'une part, Vous avez une valeur ajoutée qui n'est pas forcément, vous avez vu, la croissance du PIB par habitant est actuellement inférieure à 1%, c'est lamentable, et certains disent même qu'elle est négative. Bon, après, ça dépend de comment on interprète les statistiques, mais enfin, elle est très très faible. Notre production, notre augmentation de la du PIB par habitant est très faible, alors que dans les années 70, c'était 6, 7% par an. Vous voyez, donc là, il y avait, comme disait Bergeron à l'époque, du grain à moudre. Eh bien, Bergeron, je le rappelle pour tous nos auditeurs, c'était le...
L'ancien du... Dirigeant de la force ouvrière.
Ouais, c'est comme très modéré.
Ouais.
Mais la force ouvrière, qui était très modérée, qui n'était pas du tout révolutionnaire, était très revendicative. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y avait du grain à moudre, justement. Il y avait de la production, enfin de la richesse produite qui permettait un combat social assez important. Aujourd'hui, il n'y a plus rien et en fait, les gens, il n'y a plus tellement de gains de productivité, etc. Ce qui fait que les gens ne se battent pas pour cela. Bon, vous avez des restructurations, ce qui fait que l'emploi maintenant, c'est beaucoup plus dispersé. Et enfin, ce que réclament souvent les gens, c'est des aides de l'État, comme la prime d'activité. Vous voyez l'augmentation de la prime d'activité, des trucs. Donc tout renvoie à l'État, ce qui est à mon avis très très mauvais signe. Et c'est pour ça que la question du libéralisme ou des rapports de force sociaux se pose en des termes qui n'ont plus rien à voir avec notre référent des années 70.
Alors au-delà du marché de l'État, quelle est précisément cette troisième force ou cette troisième voie qui vous semble être celle qui pourrait émerger au sein du mouvement national?
Alors, le Rassemblement National, dans son rapport à l'économie, est très proche, j'ai trouvé, encore une fois, du gaullisme. Le gaullisme avait un projet de justice sociale qui passait, vous savez, par la participation.
Oui.
C'est même là-dessus que, avec la régionalisation, c'est là-dessus que tombe en apparence le général de Gaulle, mais ça a dû jouer dans sa chute.
Participation à la gestion et aux bénéfices. Hein.
Voilà. Au référendum de 1969, qui a lieu, donc il y a un projet étrange sur la régionalisation, puis il y a ce projet de participation. C'est vrai qu'une bonne partie du patronat de l'époque était contre, parce que ça réduisait donc dans la coalition très diversifiée, allant des gauchistes à une partie du patronat qui abat en quelque sorte le général de Gaulle en 1969. Vous aviez aussi ce rejet de la participation des salariés aux bénéfices de leur entreprise. C'était une forme de résolution du conflit capital-travail à l'époque.
Ouais, ouais, ouais.
Mais encore une fois, est très inspiré de la doctrine sociale de l'Église.
Et de la cogestion, etc.
Voilà. Et donc, mais c'est encore une fois, c'était une époque où il y avait une époque bénie, où il y avait une production très forte. Mais le général de Gaulle, dès le départ, il écrit des choses là-dessus tout le temps, avant même d'être au pouvoir, ou bien durant sa traversée du désert, il est passionné par la production. Alors que c'est un militaire, il vient d'un milieu, vous voyez, assez traditionnaliste, etc. Parce que, non, et il est passionné par la production, il est passionné par la justice sociale, non pas comme une fin en soi, mais comme une façon de solidariser toutes les catégories sociales à la cause nationale. Et ce qui l'intéresse dans la production, parce que bon, l'économie, c'est pas vraiment son truc, c'est que c'est la condition de l'indépendance et de la grandeur nationale. Et un de ces... une des choses dont il est très fier en tant que président de la République, c'est qu'en 1965, de mémoire, l'État français a remboursé toutes ses dettes. Il n'y a plus de dettes publiques. Et les budgets sont évidemment à l'équilibre à l'époque, sont même suffisamment excédentaires pour qu'on rembourse tout. Ce qui nous permet ensuite d'avoir une politique étrangère indépendante et de nous opposer aux Américains. On ne peut sortir de l'OTAN.
En 69
En 65.
65
Ah, c'est avant 69. Et non,
ah bon.
En 69,
ouais.
C'est là où il chute, justement.
Oui, à cause du Sénat, etc. Voilà.
Et on ne peut dire aux Américains, ce que vous faites au Vietnam, c'est pas génial, etc. Enfin, vous allez dire, vive le Québec libre. Et ce genre de manifestation d'indépendance, plus ou moins réelle, mais en tout cas, quand même, on sort de l'OTAN, quand même. Parce qu'on a des finances qui sont dans le vert. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a plus de dettes. Le problème qu'on a, c'est que le bloc élitaire au pouvoir... qui n'a pas l'indépendance nationale au cœur. C'est pas son sujet. Son sujet, c'est de prospérer dans l'univers de mondialisation. Bon, cet univers, il existe, hein, mais de se conformer, en quelque sorte, bah, si on gagne de l'argent par les multinationales, ou pas, qui viennent racheter une entreprise française, et alors, en quelque sorte, vous voyez ce que je veux dire.
Alors sauf que... pour ceux qui sont concernés, qui sont licenciés.
Voilà,
parce
mais
que
bon,
là, c'est tout à fait autre chose.
Une bourgeoisie française s'en accommode, etc. Ouais. Nous, on s'en accommode pas, précisément, parce que nous, notre projet est national. Et c'est pour cela que nous sommes, comme le général de Gaulle, attachés à cette grandeur nationale, et donc à toutes les souverainetés. On est resté un parti qui défend toutes les souverainetés. Et c'est pour ça que, sur les dossiers économiques, vous avez des gens comme Jean-Philippe Tanguy,
ouais.
qui vient donc du Pont-Aignan, ou bien comme Alexandre Loubet, qui vient du même endroit d'ailleurs, comme Gallois, qui vient aussi de famille souverainiste, comme Durvy, qui vient d'une certaine manière aussi d'une certaine forme de souverainisme, etc. Tous ceux qui parlent...
Thionnet n'est pas non plus complètement éloigné de cette perception, bien qu'il soit plus identitaire.
Oui, bien sûr. Vous avez.
Il y en a un certain nombre.
Mais il est moins sur les questions économiques, me semble-t-il,
actuellement. Plus sur l'écologie, oui.
Voilà. Et donc, pour parler des gens qui parlent économie, etc., on ne peut pas dire qu'ils aient un passé spécialement libéral. Mais si injecter davantage, vous appelez ça libéralisme, pourquoi pas. Je vais citer Deng Xiaoping, là, qu'importe qu'une souris. C'est quoi déjà qu'un chat soit noir ou blanc pourvu qu'il attrape les souris. C'est à peu près ça, si vous voulez. D'ailleurs, Deng Xiaoping le faisait aussi pour la grandeur de la Chine. Vous voyez, je prends des exemples assez éloignés. Mais l'important, si vous voulez, donc on s'inspire pas de Deng Xiaoping, hein, je rassure tout le monde, mais vous avez ce qui est intéressant dans tous ces parallèles un peu audacieux, c'est tout simplement le fait que s'il faut injecter davantage de libéralisme pour rétablir la production qui est la condition de l'indépendance du pays, c'est décisif. Et si vous abusez, et si vous me poussez en retranchement, je peux même vous développer la théorie d'ailleurs qui est inspirée par la Chine, l'exemple chinois, vous savez, l'opposition entre bourgeoisie nationale et bourgeoisie comprador, mais c'est encore un autre problème.
Ouais, c'est encore un autre problème. Voilà. Alors tout à l'heure, vous souriez quand je vous parlais de... la décroissance, vous m'avez répondu aussi ironiquement en me disant « je ne suis ni adepte de l'un ni de la collectivisation non plus ».
Ben non, bien sûr.
Tout dépend de ce qu'on appelle la décroissance. La décroissance, c'est le projet qui est de dire « la production et la consommation à l'infini, ça ne peut pas marcher dans un système fini ». Et que l'abondance, la croissance infinie, le pillage des ressources naturelles sur le plan national, continental, mondial, pose un vrai problème aujourd'hui. Alors évidemment, quelqu'un qui prône la justice sociale peut aller de pair avec cette écologie-là, mais en revanche, est-ce qu'un État régulé par le marché ou un marché régulé par l'État, est-ce qu'elle ne peut pas arriver à cette décroissance qui peut être aujourd'hui une des meilleures clés pour appréhender la mondialisation libérale qui se déchaîne dans le monde ?
Je crois que la décroissance... D'un point de vue très prosaïque, je viens de vous parler de l'augmentation du PIB ou sa non-augmentation actuelle, la décroissance, nous la subissons en quelque sorte, ou en tout cas la non-croissance...
Ça c'est la récession, c'est autre chose.
Nous la subissons. Alors sur la question de l'écologie et de l'environnement, alors c'est une question que... Alors moi, c'est pas ma culture personnelle, pour tout vous dire. Vous avez entendu quelques références que je peux avoir, etc. Mais ça, c'est pas... par milieu, par je sais pas quoi, c'est pas quelque chose qui me sur lequel j'ai des références théoriques très fortes, même si j'ai choisi d'habiter dans une zone hyper rurale, etc. Donc d'avoir moi-même des animaux, etc. De vivre.
Ah bah écoutez, je vous félicite.
De vivre dans
nous sommes deux.
Voilà. Donc, de vivre aussi dans un rapport d'ailleurs très michéen. Si
et oui,
vous
c'est
voulez,
ce que j'allais vous dire. Vous êtes très michéen décidément.
Et avec, y compris avec des formes de troc, vous
parce
savez.
Qu'il vit dans les Landes.
Ouais, oui, moi c'est les baronnies, mais vous avez également des échanges, comment dirais-je, non monétaires en quelque sorte.
Des échanges locaux, par
avec
exemple.
Les chasseurs, avec les agriculteurs, tout cela. Voilà, exactement. Il y avait des formes. Alors c'est des gens qui votent pas tellement pour moi comme candidat aux élections législatives, malheureusement, mais vous avez aussi des formes. Alors c'est plus dans les milieux que. Mais il ne faut pas être caricatural dans la vie. Vous voyez, vous avez des formes de néo-ruraux ou de gens d'ailleurs de la ruralité qui développent des agricultures bio, etc. Des marchés. Et vous avez, y compris près de chez moi, un centre de vente de producteurs locaux. Alors, c'est clairement une culture qui est plutôt gauchisante, on va dire, mais de fait, ils travaillent.
Oui. Si l'enracinement est une valeur de droite, elle est plutôt à droite, justement, cette valeur-là. Mais elle est défendue, malheureusement, aujourd'hui,
tout,
par
fait,
la gauche.
Ça fonctionne, vous voyez, c'est ça. C'est pour ça que moi, ces trucs de droite et de gauche, moi, je suis toujours assez prudent, parce que je vois que, concrètement, vous avez des gens qui font un travail dans la ruralité, qui, encore une fois, peut-être vont manifester avec les antifas contre ma candidature. Mais,
oui. Mais
en
mais
réalité...
qui font de bonnes choses.
Mais tout le monde souvent, les gens se trompent hein, sur
ce qu'ils vivent. Nous-mêmes, c'est pour faire écouter ça, c'est très difficile.
Et voilà. Et donc, vous voyez des gens qui, de fait, travaillent, mettent en valeur le territoire, font fonctionner des petites épiceries. Alors, elles sont un peu subventionnées, mais sincèrement, vous maintenez ça. Le parti, le Rassemblement National, n'a pas du tout une image écologique, et c'est dommage, alors même qu'il propose des choses qui sont fondamentales pour l'environnement. Quand vous défendez l'énergie nucléaire, c'est donc une énergie décarbonée. et c'est par rapport aux énergies intermittentes qui elles-mêmes sont assez polluantes, ou par rapport bien sûr à l'énergie fossile, tout ce que vous faites pour défendre le nucléaire et pour défendre l'énergie hydraulique, l'hydroélectricité. Alors, je vous parle, excusez-moi, je vais faire mon numéro de haut alpin, mais c'est la réalité. Nous avons la plus grande, dans les Hautes-Alpes, nous avons la plus grande retenue d'eau artificielle d'Europe, à savoir le lac de Sarponçon. Très belle œuvre d'ailleurs de la 4ème République et qui, à la fois, c'est une œuvre totale. Vous avez un centre de tourisme, etc. Vous avez l'irrigation et vous avez donc qui permet à l'agriculture dans la vallée de la Durance de se maintenir et de se développer. Et vous avez enfin une production d'électricité parfaitement écologique. Vous voyez, c'est le bon côté des Trente Glorieuses avec des trucs là, voilà, vous produisez de l'énergie, vous produisez de l'agriculture, vous produisez du tourisme et dans des conditions environnementales parfaites. Nous on a ça déjà, on a cette question centrale de l'énergie, du prix de l'énergie qui peut nous permettre de relancer la croissance en faisant payer l'énergie, c'est un peu le sang de l'économie et là-dessus, bon c'est... Jean-Philippe Tanguy qui est en pointe là-dessus, mais en fait tout le parti est là-dessus, sur le fait que de récupérer notre souveraineté sur la fixation du prix de l'énergie. Vous savez, on paye le prix. Nous, on a un atout en France, c'est que c'est ce plan du nucléaire qu'on doit là aussi au général de Gaulle en grande partie, ou le plan Messmer pour être précis, eh bien, nous doit donner un atout extraordinaire qui est d'avoir une énergie qui est peu chère. On a sacrifié cet atout sur l'autel européen, et maintenant on subit un prix européen de l'énergie qui, si je comprends bien, est d'abord calculé sur le prix du gaz. Alors ça arrange certains de nos partenaires, notamment, ou partenaires et concurrents, notamment les Allemands, mais pour nous c'est catastrophique. Donc déjà, en défendant l'énergie nucléaire, en matière économique, on a à la fois un atout économique, un atout écologique. Par ailleurs, quand on s'oppose là-dessus, nous n'avons pas faibli, c'est le moins qu'on puisse dire, des traités internationaux, des traités inégaux, si j'ose dire, c'est-à-dire des traités comme le Mercosur,
oui,
qui favorisent, dans une logique européenne qui est vraiment la logique des multinationales, qui favorisent les échanges avec la Nouvelle-Zélande, donc les antipodes, avec des coûts de transport terribles, une spécialisation de l'agriculture au niveau mondial qui ravage des pays entiers de ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde et qui affaiblit à son tour notre agriculture. Nous sommes en train de perdre un autre atout qui était notre souveraineté alimentaire. Nous importons dans tous les secteurs. Je crois que le solde agricole n'est pas loin de devenir négatif. Enfin, c'est dramatique. Eh bien, quand vous défendez l'agriculture, quand vous faites du protectionnisme agricole, ou simplement quand vous refusez, parce que protectionnisme agricole, nous, on exporte aussi, mais quand vous refusez l'obligation qu'on a de pratiquer un libre-échange avec des gens qui ont des normes sociales et des normes écologiques beaucoup plus basse que les nôtres, et que donc vous dévastez notre agriculture, tout ça pour permettre aux Allemands de parce que ces traités en fait sont toujours des traités qui englobent, parce que si on comprend pas ce qui se passe, qui englobent toute une série de secteurs. Donc la France laisse sacrifier son agriculture dans des négociations internationales avec des pays émergents, etc., comme le Brésil, tout cela, qui en fait favorisent dans des termes de négociations très complexes, secrètes, cachées à ce qui existe de démocratie européenne, avec toutes les critiques qu'on peut faire au Parlement européen.
Un oxymore.
Mais voilà, mais même eux n'ont pas accès aux négociations. Et après, à la fin, c'est incroyable, quand on dévoile la façon dont se passent les négociations commerciales au niveau européen, c'est dramatique. Et après, la Commission vous sort ça aux parlementaires et vous êtes placé dans on vous impose de devoir dire oui ou non. Et si jamais vous dites non, vous passez pour un affreux nationaliste. Et là, on est en train de dévaster notre agriculture et notre écologie. Donc c'est vrai que là-dessus, alors je ne peux pas en dire trop parce que vous savez...
Mais j'ai des questions encore à vous poser.
C'est à la sortie de l'été qu'on va avoir des choses, mais préparez-vous à des choses, à un propos beaucoup plus offensif sur l'écologie et l'environnement.
Ah, très bien. Alors, nous passons à Bobino et on se retrouve tout de suite après.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais, dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout. Dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Voilà, on se retrouve avec Jérôme Sainte-Marie, politologue, sondeur et essayiste, qui est le responsable RN, Rassemblement National de Campus EMERA, site de formation théorique. Nous attendons le camarade Andrea Cotarac, porte-parole du RN, membre du cabinet de Marine Le Pen. S'il n'appelait pas, je le convaincrais de venir dans un mois, mais je ne vais pas faire toutes des suites sur ce thème du RN, le Rassemblement National évolue-t-il vers le libéralisme. Alors, on va quand même donner après, de manière très pratique et très réaliste, quelles sont les réalités programmatiques du RN aujourd'hui en matière économique et sociale. Mais puisque vous parliez d'écologie, Marine Le Pen, il y a quelques années, prônait un certain localisme, une certaine économie de proximité, auto-centrée, enracinée, et allait jusqu'à se prononcer pour toutes les formes de coopération économique, sociale, écologique qui pouvaient se faire à la base dans les zones rurales ou urbaines. On l'entend un petit peu moins en parler. Est-ce que c'est ça dont vous voulez nous parler quand vous parlez d'offensive, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Est-ce qu'elle a changé là-dessus?
Ah, je crois pas du tout, hein, sincèrement. Alors, on parle de beaucoup de choses, si vous voulez, mais je crois que là-dessus, on est resté sur le même angle. C'est vrai que on va parler du libéralisme, parce que là-dedans, il y a beaucoup d'effets d'image, en réalité. De la même manière, le Rassemblement National a une image plutôt qui est construite largement par nos adversaires, ou par certains milieux, etc., qui, de la même manière qu'ils avaient caricaturé les Gilets jaunes, nous caricaturent comme le parti de la bagnole et compagnie. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, c'est... puis un parti jacobin.
Mais ça, c'est... Oui, ça, pourquoi pas, mais...
On voit l'ancien chevènementiste qui pointe son nez.
Là-dessus, il y a beaucoup de sensibilités et cultures différentes, mais voilà. Vous avez... c'est vrai que moi, je suis là-dessus, vous savez, on a parti une grande référence, on a des gens comme Richelieu, on a des gens comme Colbert...
Aïe, on va pas s'entendre, là.
Comme Vauban, etc.
Mais c'est vous l'invité.
On est plutôt, si vous voulez, on n'a pas le... Je crois que la grandeur du pays passe aussi en France par la grandeur de l'État, donc ça, c'est
pas très... Centralisation, vous croyez.
C'est pas très grave, voilà. l'écologie, oui, alors...
Et le localisme.
Nous, on est vraiment le parti, parce que moi, encore une fois, moi, je ne suis pas un économiste, hein, ni un idéologue, moi, je suis d'abord un sondeur, et donc, ce qui m'était mon cœur de métier, si vous voulez, c'est la sociologie électorale. La sociologie électorale, elle est très spectaculaire, hein, donc, depuis quelques années, et nous, on est vraiment le parti des actifs du secteur privé. Oui, on a évidemment des retraités, on a des salariés du secteur public, etc. Mais notre zone de force, si vous voulez, c'est les actifs, toutes, comme les Gilets jaunes. D'ailleurs, le débouché électoral des Gilets jaunes a souvent été le vote Rassemblement National. C'est ceux qui produisent dans le secteur privé. Donc, et souvent, des gens qui sont confrontés, notamment quand ils sont artisans, commerçants, petits patrons, tout cela, ils sont confrontés à des normes très contraignantes. On a cette culture, et je pense que ces normes sont excessives. Une fois, moi, je suis pas d'un libéralisme échevelé, etc., mais on a des normes qui sont excessives, qui sont souvent incompréhensibles, qui sont maintenant d'origine, qui sont en plus souvent des normes qui sont des transpositions de normes européennes. Oui. On pratique, nous, la sur-transposition des normes, en plus. Et donc, c'est des normes qui non seulement sont mal adaptées, mais qui n'ont même pas la légitimité démocratique, puisqu'en fait, c'est des normes qui sont importées en quelque sorte et qui ne correspondent pas à nos réalités. Donc, on a effectivement une protestation contre ce que Jordan Bardella, c'est lui qui en parle le plus, appelle l'écologie punitive, etc. Donc, ça me paraît tout à fait légitime. Ce qu'il va falloir développer, parce que ce n'est peut-être pas encore assez présent, même très certainement pas assez présent, je ne pratique pas la langue de bois.
C'est pour ça que je vous pose la question.
il faut qu'on ait un discours beaucoup plus lisible sur l'écologie et l'environnement. Donc ça va être un thème important, je crois, à la sortie de l'été. Donc moi, je ressens très fortement, d'une part, parce que j'ai une sensibilité là-dessus, même si je n'ai pas de culture écologiste, et même si, comme beaucoup de Français, je suis totalement dégoûté par le spectacle de ce qu'on appelle l'écologie politique en France. On ne dira jamais assez le mal qu'a fait Europe Écologie Les Verts à la cause environnementale et à la cause de l'écologie en France, par une caricature sociétale. Et eux, justement, vous en parliez tout à l'heure, eux, ils refusent de comprendre que le libéralisme échevelé, y compris culturel, amènera tous les libéralismes, et que leur mondialisme est le principal adversaire de l'écologie. Nous, on doit, et c'est vrai qu'il y a un effet de miroir où comme les gens détestent ce spectacle lamentable de l'écologie politique, ils en viennent à décrier. Mais nous, on a un discours, pour le coup, sur le climat qui est tout à fait clair. On est totalement opposé au climato-scepticisme, vous voyez, ce genre de choses. On est parfois accusé de ça, c'est entièrement infondé. On est favorable à une énergie décarbonée, on est favorable à, opposé à ces traités qui, encore une fois, ravagent la planète et ravagent notre agriculture, etc. Après, il faut trouver un compromis, c'est toujours difficile, entre le maintien et le développement de l'agriculture française, et donc ça veut dire aussi des produits chimiques, très clairement, et le maintien de l'écologie. C'est pas facile. Mais en politique, dès que vous passez dans la politique, dès que vous commencez à aborder la question de l'exercice du pouvoir, rien n'est facile.
Puis peut-être aussi la conjugaison de l'État au sommet et d'une certaine proximité culturelle enracinée à la base, parce que l'État a souvent abrogé les cultures enracinées dans le passé. En même temps, il est difficile de faire abstraction de l'État national. Donc, comment faire pour que cet État national soit respectueux des identités ethnoculturelles qui existent présentes sur notre sol, sachant qu'un État tentaculaire et un marché prédateur sont en train aujourd'hui de faire des ravages, notamment en France, mais en Europe et dans le monde?
Oui, alors c'est une sensibilité que je respecte et comme nous tous, j'ai lu Pasolini qui avait écrit des belles pages sur l'éradication des cultures régionales en Italie. Oui. Mais justement, Pasolini, il écrit ça dans les années 60. Et déjà à l'époque, via la télévision notamment, il constatait la disparition des dialectes, de beaucoup de spécificités régionales qui étaient pourtant très fortes en Italie. Il faut bien voir qu'on est dans un pays, la France, qui est centralisé depuis très longtemps, d'après Alexis de Tocqueville, depuis même avant la Révolution, donc l'ancien régime, et qui a travaillé, donc c'est pour ça que vous avez réagi à Richelieu sans doute, qui a travaillé à la centralisation autoritaire depuis très très longtemps. Et de fait, vous avez eu aussi la mondialisation, l'américanisation très bien décrite par beaucoup de gens, mais cette description a été actualisée par les récents livres de Jérôme Fourquet, cette importation la célèbre histoire d'Halloween. Moi, je ne savais pas que ça existait quand j'avais 15 ans, si vous voulez. Puis aujourd'hui, je crois que je suis le seul à ne pas la pratiquer quasiment. Vous voyez ce que je veux dire dans mon environnement. Donc, vous avez effectivement cette acculturation etc., qui fait que, de fait, ces cultures locales existent plus ou moins fortement selon les endroits. Ça aussi, Michel le décrit.
Bien sûr. Mais la Bretagne, la Corse, la Bretagne, l'Alsace, le Pays Basque sont démonétisés.
C'est un autre chantier, c'est qu'en plus on est piégé par nos institutions, c'est-à-dire que ceux qui ont une sensibilité, disons, même si ça ne correspond pas à la réalité historique, mais enfin bon, pour me faire comprendre, girondine.
Oui, à mon avis ça ne correspond pas parce que les Girondins se sont alignés sur les Jacobins. Et les fédéralistes, en fait,
Les Jacobins qui se sont alliés sur les Girondins, historiquement, qu'est-ce que les Girondins étaient tout à fait centralisateurs.
Mais les Girondins ont perdu au profit des Jacobins.
Oui, parce qu'en fait, il y a eu des émeutes, ils n'ont pas réussi à prendre le pouvoir au niveau national, il y a eu des insurrections locales, et donc on croit que les Girondins étaient... que le parti girondin était girondin au sens actuel, mais c'est pas vrai en fait, c'est une image historique. Michel Onfray ne le sait pas visiblement, mais il devrait se renseigner.
Et c'est peut-être pour ça qu'il se dit girondin et fédéraliste, et à mon avis c'est pas la même chose.
Parce que
le fédéralisme de Maurras, le fédéralisme de Mistral, le fédéralisme provençal, le fédéralisme des Félibriges, le fédéralisme décentralisateur, et les cultures enracinées, les identités populaires, etc. Vous avez comme quelqu'un comme Alain Benoît par exemple aujourd'hui, qui est toujours très défenseur et fervent partisans de ces cultures, pas seulement à l'échelle nationale, d'ailleurs, à l'échelle du monde, de la cause des peuples et des peuples différenciés face au rouleau compresseur de la mondialisation et au nationalisme jacobin qui est à plus petite échelle ce qu'est la mondialisation américaine centrée.
Alors malheureusement, ou heureusement, ça dépend des situations, les réalités sociales et humaines évoluent avec le temps. Les problèmes ne se posent pas de la même façon aujourd'hui qu'en 1900. Et donc, vous parlez des Félibriges, je ne sais plus en quelle année c'était exactement, mais ça ne nous rajeunit pas.
On peut s'en inspirer.
Voilà, eh bien, vous avez eu ce travail par l'économie, par la culture, par l'État, d'arasement en quelque sorte, des différences, mais qui va très très loin. Vous savez, en tant que sondeur, moi j'ai quand même beaucoup travaillé sur les données d'opinion, et c'est vrai que les dimensions, les écarts régionaux sont très faibles souvent sur les opinions, d'autant plus que c'était fait pour ça, notre système administratif ne recoupe pas du tout les anciennes provinces, etc.
Donc, oui, bien sûr.
Oui, mais
bien
ça
sûr.
Produit des effets, si vous voulez. Maintenant, les gens sont très attachés à des départements qui, souvent, oui. Ont... et nos régions ne correspondent... Je vous prends un exemple, encore une fois, les Hautes-Alpes. Les Hautes-Alpes, comme vous le savez sans doute, c'est un territoire qui appartient historiquement à la province du Dauphiné.
Oui.
Quasiment entièrement. Et qui a été rattaché à la région PACA et donc ensuite et donc la région sud comme on dit je crois désormais qui elle relève bon c'est grosso modo la Provence avec le comté de Nice et précisément ce morceau de Dauphiné que sont les Hautes-Alpes mais ça n'empêche pas les gens de se sentir aujourd'hui appartenant à la région PACA. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, mais permettre de se réenraciner dans leur patrie charnelle plutôt que dans des départements artificiels qui ne correspondent pas historiquement, ethniquement, culturellement à ce qu'ils sont, c'est peut-être aussi un défi qu'il faut prendre en compte.
Alors, je sais plus quand ont été créés les départements, ça devait être autour de 1790, mais oui. ce débat, on peut pas l'avoir en 2026.
De toute façon, ça nous emmènerait très loin.
Comme on l'aurait eu en 1791, vous voyez ce que je veux dire. Donc, après, ce que vous allez avoir, c'est une... Alors, est-ce que ça pourrait être mis en place d'ici aux prochaines élections régionales et départementales qui auront lieu en 2028. Vous voyez chez moi, le sondeur et l'électoraliste n'est jamais loin. Mais je sais qu'il y a des projets quand même de simplification, au minimum de simplification, parce que c'est vrai que cet empilement est totalement incompréhensible. Enfin, et c'est incompréhensible.
Fausse décentralisation.
C'est très coûteux, oui, bien sûr, c'est une fausse décentralisation. C'est une fausse décentralisation. Alors, le summum, ça a été les régions regroupées de François Hollande, où là, vous arrivez à des choses qui n'ont plus rien à voir. Et donc, ce qu'on appelle les pays, en fait, ne correspondent pas du tout aux régions. Donc, ça, c'est un sujet très, très large sur lequel on aura effectivement des choses à dire.
Alors, maintenant, je vous pose la question, puisqu'il nous reste 10 minutes, la question générique, la question de départ. Le Rassemblement National évolue-t-il vers le libéralisme ? Je vous pose la question, vous voyez, route de Fonderie, est-ce qu'aujourd'hui, le RN, Marine Le Pen ou Bardella, sont-ils en train de faire évoluer le RN vers des positions plus libérales qu'elles ne l'étaient précédemment ?
Ben, il ne me semble pas. Il ne me semble pas, mais si à la limite ça peut nous rendre service que cette image se répande, pourquoi pas ? Parce qu'en fait, on est confronté à quelque chose qui est très... Et là, encore une fois, ça va être le sondeur, l'homme d'opinion qui parle, quelque chose qui est assez mystérieux. C'est-à-dire que moi, je discute souvent, y compris si vous faites des études ou quand vous discutez même avec des gens qui viennent me voir ou que je connais, qui me disent « Bon, Jérôme, sincèrement, je pense que vous avez raison sur plein de trucs. L'immigration, ça va pas du tout, etc., etc. La perte de souveraineté en général, l'insécurité, tout ce que vous voulez. » D'accord. Mais quand même, hein. Votre programme économique, hein, ça, c'est pas possible.
Ouais, on a entendu mille fois ça.
Ah, c'est vraiment un programme socialiste, ou je sais pas quoi je dis. Alors je dis, très bien, bon, on s'arrête tout de suite. ça m'intéresse. Alors, ça m'ennuie quand même que notre... Voilà. Alors qu'est-ce qu'il a de socialiste, notre programme économique ? Et là, il n'y a plus personne. C'est-à-dire, et les gens n'ont pas peur.
Non, c'est le micro qu'il faut remettre en place. Voilà, vous entendez bien.
Les gens, quand vous étudiez ce que disent, c'est un schéma triangulaire, vous voyez, comme vous parlez comme le philosophe Girard, c'est un schéma triangulaire.
Oui.
C'est pas que les gens aient peur de notre programme, ils ont peur de la peur qu'inspire notre programme. Je sais pas si vous me faites combien comprendre. Et en disant, mais tout le monde va, tous les industriels vont partir, les investisseurs vont pas venir. Pourquoi ? Ben parce que votre programme est socialiste. Alors, je dis, mais alors, qu'est-ce qu'il a votre programme ? Mais j'en sais rien, ce qu'il a votre programme, me répond-on. Mais je sais que les gens en ont peur et que les investisseurs vont avoir peur. Donc, en fait, encore une fois, c'est un schéma triangulaire, on n'a pas peur. Alors, ce qui est du coup très compliqué pour nous pour argumenter, parce que on doit... Et tout ce qui permet de rétablir, ce qui est très important en économie, et d'ailleurs, une institution comme la Bourse fonctionne essentiellement là-dessus. La Bourse, c'est des phénomènes d'opinion, en réalité. Hein, vous voyez, c'est cette chose qu'on appelle la confiance.
Oui.
Tout ce qui permet de rétablir la confiance bien sûr, des investisseurs, etc. On a besoin, encore une fois, on est une société, on ne changera pas la structure sociale et économique de la société, donc ce n'est pas notre intention de toute façon, ni notre intention ni notre possibilité. Donc on joue avec les règles du jeu économique actuel et il faut que les gens aient confiance, il faut que les gens investissent, etc. Il ne faut pas que les gens partent. On a déjà suffisamment de jeunes diplômés qui quittent le pays. Il faut que les gens se disent que leur avenir économique, parce qu'à la fin c'est ça qui compte, soit en France. Il faut également que les retraités, qui sont un tiers du corps électoral théorique, et en réalité beaucoup plus dans le corps électoral réellement mobilisé, les retraités qui ont souvent des réticences pour voter pour nous, parce qu'eux ils veulent pas que le système s'effondre, parce que c'est leur retraite qui en dépend, en raison du système par répartition.
Et bien, là aussi, il y a eu une petite évolution. On est là, passé d'un RN qui était favorable aux 60 ans à un RN qui est favorable aux 62.
62 ans
avec
actuellement.
42 annuités à partir de 18
avec
ans.
Avec une question importante, c'est effectivement qu'on ait un taux d'activité plus important. On a quand même, ce qui est très important, vous savez, l'autre principal drame actuellement, c'est la situation du système scolaire qui forme mal, qui forme peu et qui forme mal. Vous voyez, avec un coût extraordinaire. Notre perte de productivité et notre perte d'indépendance, elle est inéluctable si nous ne redressons pas la situation de l'éducation nationale, à deux aspects essentiels. Notre chute dans les classements internationaux, et l'autre aspect très important, c'est le fait que notre système de formation professionnelle est très peu importante. Excusez-moi, puisqu'on est sur Radio Courtoisie, je vais faire... Donc vous voyez, donc nous on n'a pas changé, simplement on est très content d'avoir enfin l'oreille du patronat. Et pourquoi on a l'oreille du patronat ? Parce qu'on a une force électorale. Donc les gens s'attendent à ce qu'on arrive au pouvoir. Et du coup, l'interdit social qui pesait sur les contacts avec le Rassemblement national est tombé. De ce point de vue-là, moi je me suis réjoui. Enfin, vous comprenez bien ma sensibilité, encore une fois, hein, mais personnelle. Mais s'il y a vraiment un événement dont je me suis réjoui récemment, c'est la rencontre avec le MEDEF.
Mais alors justement. Nicolas Sarkozy, en 2007, avait réussi cette mystification, ce magicien de la politique qu'était Sarkozy, avait réussi à réunir les classes populaires, les classes moyennes déclassées et les classes bourgeoises. Et il en était, il a été président, et il a recommencé d'ailleurs en 2012, il a perdu de peu, il aurait pu recommencer. Bon. Est-ce que ça n'est pas là une escroquerie qui a marché? Et est-ce que Marine Le Pen, qui s'adresse avant tout aux premières classes que j'ai mentionnées, populaires et moyennes déclassées, va pas faire le grand écart en s'alliant avec la bourgeoisie qui a toujours trahi la patrie ?
Oh, la bourgeoisie n'a pas toujours trahi la patrie, il ne faut pas parler comme ça, mais vous aviez à une époque une bourgeoisie nationale. Aujourd'hui, elle est devenue une bourgeoisie comprador en grande partie, c'est ça le problème. Mais vous avez toute une dimension de la bourgeoisie qui était nationale, il faut quand même être juste.
La bourgeoisie aussi a évolué, hein.
Mais la bourgeoisie a beaucoup évolué, ça oui. Parce que ses intérêts ont évolué.
Oui, aussi.
Parce que le marché a évolué aussi. Le marché n'est plus un marché national, etc. Ça joue beaucoup. Bref, pour revenir à des aspects plus contingents, je voudrais vous rassurer sur un point. Alors j'ai bien vu ce qu'a fait Sarkozy, c'est-à-dire j'avais beaucoup d'ailleurs suivi la campagne, etc. Il avait utilisé ce thème du gagner plus. Enfin, travailler plus pour gagner plus, avec des aspects très concrets, hein, la défiscalisation des heures supplémentaires, tout ça, c'était des choses qui étaient comptées. Et grosso modo, vous êtes toujours obligé de parler de pouvoir d'achat pour une élection présidentielle si vous voulez gagner, d'autant plus qu'on a un pays où l'État, lorsqu'on est élu un président de la République, c'est un chef de l'État, eh bien, vous nommez quelqu'un qui va être à la tête d'un immense système, une immense machine de captation et de redistribution des richesses. Donc on peut pas faire autrement, il faut bien sûr parler de pouvoir d'achat, tout le monde parle de pouvoir d'achat, en tout cas quand il veut gagner, la gauche comme la droite, etc. Sarkozy avait réussi à gagner, et il avait repris ce thème. Alors le travailler plus pour gagner plus, c'était d'ailleurs un slogan, je crois, au départ de Marine Le Pen, en fait, il faudrait rechercher, j'ai découvert ça récemment, et donc le thème, moi, me paraît très, très bon, et donc permettre, par la fiscalité sur le travail, justement, que les gens gagnent réellement plus. C'est une... Encore une fois, vous savez, la demande pour la réduction du temps de travail, par exemple, n'était pas une demande populaire massive. Hein. C'est pas du tout comme ça que ça s'est produit. Les gens veulent vraiment gagner de l'argent par leur travail. Et toute la question, et c'est ça le principal outil de promotion sociale et de justice sociale dans les 30 Glorieuses. Quand vous avez moins de travail, les gens sont réduits à leur propriété, notamment la propriété immobilière, et là, les différences sociales ne bougent plus. Donc ça, je vais juste vous donner un argument. Qui n'est pas un argument de fond, mais qui est un argument essentiel. Nous sommes avant tout le parti des catégories qui travaillent dans le privé, notamment les ouvriers, les employés, les professions intermédiaires.
Aussi les chômeurs, quand même.
Ces gens-là, on ne peut pas les décevoir. Et ça, si comme je le pense, on arrive au pouvoir en 2027, on ne peut pas les pouvoir... Parce que si on déçoit, nous, on n'aura pas de corde de rappel. Et la gauche et la droite s'en accommodaient en disant bah, finalement ça sera toujours, bon, bah, on va laisser Hollande gagner, on y arrivera derrière, etc. Et quand Sarkozy a déçu, notamment sur cet aspect-là, les Français ont été prêts à voter pour n'importe qui, même pour François Hollande, pour ne plus avoir Sarkozy. Vous voyez le problème. Nous, si jamais on arrive au pouvoir et qu'on déçoit, on n'a pas de corde de rappel, on ne reviendra pas. Donc ça, tout le monde au sein du parti en a conscience. Et donc nous ne décevrons pas, nous ne pouvons pas décevoir les attentes, y compris les attentes financières des catégories sociales qui nous soutiennent.
Alors, sur la question des retraites, est-ce que vous n'avez pas tendance à minimiser la pénibilité au travail qui, au bout d'un certain temps, fait que les gens deviennent de plus en plus arraisonnés par un travail aliénant et un travail difficile pour beaucoup d'entre eux? Et est-ce que, ça c'est la deuxième question, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le gagner plus pour toujours, travailler plus pour gagner plus, est-ce que ça n'est pas, c'est cohérent entre les deux, hein, c'est aussi un petit peu faire primer l'homo economicus sur l'homo civicus, si j'ose dire, c'est faire primer l'individu qui travaille, l'individu consommateur, l'individu producteur, sur l'individu relié à une communauté nationale.
Oh, là, vous faites des distinctions qui sont très abstraites. Moi, je pense qu'effectivement, il faut produire pour avoir l'indépendance nationale. Produire, c'est un joli mot. Moi, nous, on est vraiment le parti de la production. On n'est pas un parti libéral ou un parti social. On est avant tout, vous l'entendrez tout le temps, le parti de la production. C'est encore une fois la meilleure façon. C'est, d'une part, c'est une contribution à une cause collective, à la cause nationale, et c'est le moyen de l'indépendance, c'est le moyen de la réalisation, c'est pas un gros mot. Et travailler plus, ça peut être aussi travailler plus tôt, vous savez, de permettre aux gens de... Et je finirai par une référence dont je suis d'ailleurs en train d'oublier l'auteur, qui a écrit un livre qui m'a beaucoup frappé ces derniers temps, que j'ai traité à Campus Emera, qui était Éloge du carburateur. Je sais pas si vous avez vu.
Non, je connais pas cet ouvrage.
Éloge du carburateur, c'est un philosophe et mécanicien américain qui, à la fois, travaille en université, mais répare des motos. Son nom m'échappe. Je me demande, c'est pas Thomson. Faudrait vérifier. Qui a écrit un très beau livre.
Auditeurs vont le trouver.
Dans la librairie La Découverte, vous voyez, c'est une librairie qui est pas très proche de nous, mais c'est un auteur, je sais pas si La Découverte a bien réalisé ce qu'ils étaient en train d'éditer, parce qu'il détient des propos assez conservateurs à tout point, de point de vue culturel, et il fait l'éloge de la réparation, puisque ça, c'est des, vous avez toutes sortes de métiers comme ça où on s'accomplit, où on est utile. Là, en l'occurrence, il répare des motos. Et c'est des métiers qui ne sont pas délocalisables et qui ne sont pas remplaçables par l'intelligence artificielle. Donc, vous avez là aussi un gisement d'activités qui sont à la fois manuelles et intellectuelles, puisque réparer une moto, ça demande de résoudre des problèmes. J'en serais moi-même totalement incapable. Eh bien, c'est plutôt cette... voilà, donc malheureusement, j'ai pas le temps de regarder sur mon téléphone la référence, mais Éloge du carburateur,
si
c'est un conseil de lecture...
Si vous l'avez, chers auditeurs, vous pouvez nous le donner.
Un conseil de lecture que je vous donne et qui traduit assez bien notre philosophie.
D'ailleurs, vous parliez des producteurs, mais il y a eu dans ce qu'on appelle génériquement, et vous savez que Radio Courtoisie est très attentive à ce qu'est le patrimoine intellectuel de la droite, il y a eu cette république des producteurs qu'on a retrouvée chez des gens comme Georges Valois, qu'on a pu retrouver chez un tel ou un tel d'économistes formés et qui justement montraient bien que le productivisme économique financier n'était pas la république de la production au sens de l'investissement nécessaire évidemment d'individus à la communauté nationale. Donc il faudrait en fait continuer à en parler et dans un mois se retrouver. Je pense qu'on a quand même bien déblayé le terrain. Cotarac reviendra de toute façon sur Radio Courtoisie et je lui poserai d'ailleurs des questions sur les mesures phares sur la question économique et sociale liée au programme structurel économique et social de Marine Le Pen et de Jordan Bardella du Rassemblement National. Merci Monsieur Sainte-Marie.
Merci à vous.
Et à très vite, chers auditeurs.
Vous venez d'entendre le libre journal d'Arnaud Guyet-Jeannin diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 14 mai 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.